Voilà, je passe maintenant à la présentation de notre intervenant de ce soir, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman est né en 1925 en Pologne. Il est sociologue. Il est professeur de sociologie émérite de l'université de Leeds et de l'université de Varsovie. Pour son parcours, après des études à l'université de Varsovie, à partir de 1971, il s'installe en Angleterre où il devient professeur à l'université de Leeds. Il est spécialiste renommé de la condition postmoderne. Il a également beaucoup travaillé sur l'Holocauste et sur l'identité contemporaine. Pour ce qui est de ses ouvrages, il a écrit de nombreux articles et de nombreux ouvrages. La plupart, hélas, ne sont pas traduits en français. Il y en a beaucoup. Alors, j'en cite quelques-uns pour ceux qui ont été publiés en anglais. Modernity and Holocaust, Modernity and Ambivalence en 1991, Postmodern Ethics en 1993 et Liquid Modernity en l'an 2000, parmi d'autres. Et pour les ouvrages qui ont été traduits en français, il y en a pour le moment deux. Le premier, qui est Le coût humain de la mondialisation, paru en 1999 aux éditions Hachette et publié après sous forme de poche dans la collection Pluriel, et Modernité et Holocauste, publié à la Fabrique en 2002. Et enfin, apparaître en l'automne 2003, L'identité en pièces aux éditions du Rouergue, Jacqueline Chambon, collection Les Incorrects. Alors, nous serons assistés pour les questions et pour le débat de Madame Neyman, qui est sociologue et qui a travaillé très longtemps avec le professeur Bauman à Varsovie, et de Madame Florence Rory, qui est une longue amie de l'Université de Tous-les-Savoirs et qui nous aidera pour que tout ce débat se passe bien. Je vous remercie. Je laisse donc la parole au professeur Bauman pour une cinquantaine de minutes. Merci. Merci.
Madame, Monsieur, suspendu au milieu des changements vertigineux, notre monde n'est pas mûr pour la synthèse. Il est trop tôt pour esquisser un modèle général de la nouvelle condition humaine. La mondialisation de la condition humaine est loin d'être achevée et chaque description du mode d'unité planétaire et des dangers nouveaux qu'il comporte est voué à être révisé et repris plusieurs fois, peut-être sans fin. Je me contenterai donc ici de décrire très brièvement trois faits nouveaux, trois tendances nouvelles, à mon avis fécondes du modèle de cohabitation planétaire, et puis trois conséquences de ces orientations, de ces tendances, qui semblent peser très lourdement sur les origines et les formes changeantes des conflits contemporains, ainsi que sur les stratégies appliquées dans les luttes actuelles des pouvoirs. Commençons par le processus de remplissage de la planète. Notre planète, messieurs et mesdames, est aujourd'hui pleine. Soyons clairs, il ne s'agit pas là d'un constat de géographie physique ni même humaine. C'est une proposition sociologique. En termes d'espace physique et d'extension de la cohabitation humaine, la planète est tout sauf pleine. Dire que la planète est pleine, c'est dire simplement qu'il n'y a plus de l'espace sans maître, des no man's land, des territoires qui peuvent être traités comme vides de toute présence humaine, dépourvus d'administration souveraine et donc ouverts à la colonisation et au peuplement. Pendant une grande partie de l'histoire moderne, tels territoires, aujourd'hui presque disparus, ont joué le rôle crucial des décharges, des rebuts et des déchets humains produits en quantité toujours plus grande dans les parties du monde touchées par les processus de modernisation. La production des déchets humains, ou plus exactement d'humains prononcés superflus et alors gaspillés, est un élément indissociable de la modernité. De cette condition sociale qui se caractérise par une modernisation perpétuelle, obsessionnelle et addictive. Production de gaspillage était un effet inévitable de la constitution de l'ordre, car chaque type d'ordre prive certaines parties de la population existante de sa place légitime, les définissant comme n'étant pas leur place, inadaptés, inutiles, incompétentes ou indésirables. Aussi, en effet, du progrès économique qui ne peut se perpétuer qu'à condition d'une dévalorisation des modes permettant jadis de gagner sa vie, ainsi privant ceux qui le pratiquent des moyens de subsistance. Cependant, au cours d'une longue partie de l'histoire moderne, de vastes régions du globe ont échappé complètement ou partiellement aux pressions de modernisation. Face au secteur modernisé du globe, ces territoires prémodernes, sous-développés, arriérés, ont eu tendance à être considérés et traités comme des destinations naturelles pour les êtres humains devenus superflus dans les régions plus développées du globe. L'élimination de ces déchets humains produits dans les régions en voie de modernisation fut le sens le plus profond de la colonisation et des conquêtes impérialistes, que la limitation du développement à une petite partie de la planète rendue possible et en fait inéluctable. Le fait que le processus de modernisation demeure limité au niveau territorial permet à la partie moderne du globe de rechercher et de trouver des solutions extérieures, globales, à des problèmes intérieurs produits localement. Cette situation a perduré au fur et à mesure que le mode moderne d'existence est resté les privilèges de quelques régions. Aujourd'hui, cependant, la modernité a triomphé et devenu, comme prévu, une condition universelle ou quasi-universelle de l'humanité. Et la production de déchets humains s'est généralisée à pratiquement tout le globe. Il n'y a donc plus de débouchés globaux pour les surplus locaux, tandis que toutes les régions, y compris les plus fortement modernisées, doivent souffrir les conséquences du triomphe mondial de la modernité. Elles se trouvent toutes confrontées à la nécessité de rechercher désespérément des solutions locales à des problèmes produits de façon globale. En résumé, le remplissage de la planète, phénomène nouveau et sans précédent, représente pour l'essentiel une crise aiguë de l'industrie du traitement des déchets humains, qui se trouve à présent manquée de décharges et d'instruments de recyclage. Pendant que la production de ces déchets se poursuit sans faiblir et gagne rapidement en volume. Une autre tendance importante est la fin de l'ère de l'espace. Là encore, mesdames et messieurs, une précaution est nécessaire. La fin de l'ère de l'espace ne signifie pas que l'espace ne compte plus. L'importance de l'espace physique n'évolue guère, mais ce processus est associé à une accentuation brutale de la signification du territoire, de l'endroit, du lieu. En posant le verdict d'une fin de l'ère de l'espace, je vais parler de la nouvelle extraterritorialité du pouvoir et du remplacement de l'engagement territorial par la mobilité comme facteur stratégique décisif dans la lutte pour les pouvoirs. Dans la hiérarchie du pouvoir global qui se fait jour, règnent ceux qui dépendent le moins de l'espace, qui sont le moins attachés à un lieu et le plus libres de se déplacer. Dans l'espace de flux, ce sont la vitesse de mouvement et l'aisance à se désengager et s'échapper, et non la taille des possessions territoriales qui emporte. Le retranchement territorial ralentit le mouvement ou exclut la possibilité de plus un atout, mais un fardeau et un handicap. L'éventualité de s'attacher à un territoire, prendre des responsabilités à long terme pour un territoire, doit être évité à tout prix. Et les joueurs plus grands qui comptent véritablement au jeu de pouvoir font en fait tout ce qu'ils peuvent pour l'éviter. Les nouveaux empires ne sont pas de ces mondes. Ils n'appartiennent pas à la réalité terrestre et géographique, à l'espace des lieux. D'autre part, les lieux ont perdu leur capacité de protection. L'époque de l'Imaginot Siegfried est terminée. S'accrocher à un endroit, même le plus hermétique et fortifié, n'est plus une garantie de sécurité. Le pouvoir n'est plus territorial et il ne respecte plus les défenses territoriales. Les frontières sont éminemment perméables. Les pouvoirs fluides ne respectent guère les obstacles. Ils suintent par les murs, aussi épais qu'ils soient. Ils passent facilement par les milliers de fissures, de fentes et de crevasses, aussi fines soient-elles. Il n'existe aucun mastic capable de boucher les trous et d'arrêter les fuites. C'est sous ces conditions défavorables que les forces étatiques et des États-nations coupées du flux global et immobilisées par sa souveraineté territoriale et ses responsabilités locales sont forcés de chercher des solutions locales à des problèmes produits au niveau global. Ces problèmes sont générés dans l'espace de flux, mais doivent être abordés et traités dans l'espace de lieu. La signification nouvelle de l'endroit naît, se nourrit et se consolide perpétuellement de cette nouvelle condition globale. La troisième tendance, elle dérive de autres deux. Après deux siècles environ de mariage, le pouvoir et la politique installés joyeusement dans le cadre de l'État-nation moderne semblent se diriger à présent vers le divorce. Les deux membres de couple regardent dans des directions opposées. L'un se trouve inconfortable dans le domicile partagé et l'autre est de plus en plus contrarié par les absences prolongées de son partenaire. Le pouvoir n'aime plus les étreintes de la politique et les bras et mains de celle-ci s'ouvrent vainement sur les vides. Ayant déménagé vers des étages plus élevés, le pouvoir a démoli l'escalier et place des gardes armés devant l'ascenseur. La politique, abandonnée dans l'appartement, s'est vue interdire l'accès au nouveau domicile du pouvoir qui s'est fait mettre sur liste rouge. Les messages envoyés à poste restante ne sont pas certains d'atteindre leur destinataire et les réponses sont laissées à son entière discrétion. Privé du partenariat du pouvoir, ancienne source de sa force et sa confiance, la politique doit conserver le sourire, acceptant son sort et espérant en vain cacher son impuissance. D'autres résidents de l'ancien foyer du pouvoir et de la politique quittent la maison en foule. Privée de pouvoir, la politique ne peut garder efficacement la sortie. D'ailleurs, même si elle en veille les moyens, elle ne les ferait pas. Ces résidents, quelle est l'aile, posent trop de problèmes. La politique de l'État-nation serait heureuse de voir la plupart d'entre eux s'installer au dehors de sa domaine. Elle les harcèle, elle les incite à partir en voyant des stratégies baptisées diversement de régulation, privatisation ou principe de subsidiarité. La plupart des fonctions que la politique exerçait sont à présent concédées aux forces du marché et au domaine nouveau de la politique de la vie. Cette politique qui encourage les citoyens des États-nations à rechercher des solutions personnelles à des problèmes d'origine sociale. Le pouvoir est libre de parcourir l'espace global des flux sans accorder des reconnaissances autres que formelles aux anciennes formes de contrôle politique, tandis que la politique, privée de tout pouvoir, ou presque tout pouvoir, ne peut qu'observer, malheureuse et impuissante, ses pitreries. Le mieux qu'elle puisse espérer, c'est de s'attirer les bonnes grâces de pouvoirs extraterritoriaux, tout en dirigeant le coup vers l'autre souveraineté également territoriale. J'aimerais maintenant présenter brièvement trois conséquences des orientations que je viens d'évoquer. La première est l'émergence à l'échelle du monde d'une frontière land, un nom américain pour le Wild West, un territoire sauvage et non apprivoisé, un espace sous l'ordre public et sans loi. De tous les paysages sociaux connus, celui que rappelle le mieux l'espace global de flux, c'est cette frontière land américaine, immortalisée dans les westerns de Hollywood ou les contes des trappeurs et autres cowboys de la frontière, ressuscités à nauseam par les studios Disney. Dans ces frontières land mondialisées, il n'existe aucune règle de conduite liant les forts aussi comme les faibles. Il n'existe pas d'autorité capable ni désireuse d'imposer le respect de telles règles. Les événements se suivent les uns les autres sans ordre cohérent prévisible. Tout peut arriver. là-bas. Mais rien n'est fait avec certitude ni assurance, ni avec une conscience totale des conséquences. Ce qui peut arriver, chacun est à même de l'imaginer, mais personne ne le sait avec certitude. Toutes les limites sont ici temporaires et aucune n'est infrangible. Les coalitions sont fluctuantes et ad hoc. Les amitiés et les inimitiés sont changeantes et toujours fragiles. Suivant les fluctuations rapides des intérêts et des fortunes, les liens d'hier peuvent se transformer ou être transformés en ennemis. Tout comme les ennemis jurés d'hier peuvent unir leur force à celle de leur adversaire et être accueillis à bras ouverts. La liberté de manœuvre est la clé de l'immunité et la victoire, tandis que l'attachement au sol est la source de vulnérabilité et de défaite. Le résultat de l'affrontement dépend de la capacité de surprendre l'adversaire, de la vitesse à laquelle on porte le coup et de la rapidité avec laquelle ceux qui les ont portés échappe aux représailles. Le véritable enjeu de lutte de pouvoir, ce n'est pas le territoire, mais la capacité et la liberté de s'en dégager. Ici, tous les pouvoirs réels, ceux qui importent vraiment, adaptent leurs compétences, leur armement et leur stratégie aux conditions d'une incertitude et d'une improvisation perpétuelle. Tous les pouvoirs de ce type prospèrent quand l'accident et le hasard règnent. Pour comprendre la différence entre les relations de pouvoir dans l'espace défini par des règles et celles d'une terre de frontières, frontières lentes, on peut recourir à la métaphore du fleuve et du champ des mines, évoqué par le philosophe russe Ruri Lotman. Suivant la trajectoire dure et inflexible du lit du fleuve, les eaux vont leur chemin vers l'estuaire en érodant, sapant, dissolvant et contournant les obstacles. Un champ des mines contient en somme la même puissance qu'une rivière, mais à la différence des rivières, le lieu de concentration et de condensation de la puissance et la direction dans laquelle cette puissance va finalement se manifester ne peuvent être anticipés. On est tout à fait certain que les explosions auront lieu, mais on ne sait ni où ni quand. Une autre conséquence, si les lignes de front tentent à changer et si la distinction entre amis et ennemis n'est ni permanente ni dépourvue d'ambiguïté, les confrontations armées tentent à prendre la forme des combats de reconnaissance. Les combats de reconnaissance ne sont pas faits après, mais avant la définition de but et la stratégie de guerre. Leur objectif est de découvrir quel usage des armes est probable à apporter le meilleur résultat. La logique de la rationalité instrumentale est inversée. Ce sont les ressources disponibles qui qui cherchent là leur emploi le plus efficace. Nul n'a oublié la formule de Clausewitz selon laquelle les guerres sont la continuation de la politique par d'autres moyens. De même, les batailles de reconnaissance sont, ainsi que l'a suggéré Jean Baudrillard, la continuation de l'absence de politique. Et nous pouvons ajouter le remplissage par d'autres moyens du vide que la politique a laissé. Le résultat le plus important des changements analysés et de leurs conséquences est peut-être la vulnérabilité mondiale mutuellement assurée. La vulnérabilité mondiale mutuellement assurée. Les combats de reconnaissance ne sont plus des stratagèmes auxiliaires, comme c'était le cas dans les guerres classiques. Ils sont plutôt la forme principale, normale et quasi permanente des hostilités. Si les guerres classiques se donnaient pour objet de diminuer l'incertitude irritante provoquée par la proximité d'un voisin animé d'intentions potentiellement hostiles, les guerres qui se diluent dans une succession de batailles de reconnaissance deviennent une cause première d'incertitude. Leur effet immédiat est une précarité et une vulnérabilité croissante de tous les acteurs, ainsi que les victimes collatérales potentiel ou réel de leur action. Analysant le mystère du pouvoir terrestre humain, un autre philosophe russe, Mikhail Bakhtin, commence par la description de la peur cosmique, émotion humaine provoquée par la magnificence inhumaine de l'univers. La peur qui, selon Bakhtin, constitue le fondement, le prototype et l'inspiration du pouvoir d'origine humaine. Oui. Au cœur de la peur cosmique s'inscrit l'insignifiance de l'être humain, faible, mortel, confronté à l'énormité de l'univers éternel. La vulnérabilité du frêle corps humain qui révèle le spectacle des firmaments ou des masses montagneuses, mais aussi la conscience qu'il n'est pas du pouvoir des hommes de comprendre cette puissance. Puissance terrible qui se manifeste dans la grandeur éternelle de l'univers. Les intentions de l'univers sont inconnues et ses dispositions à venir imprévisibles. S'il existe un plan préconçu ou une logique dans son action, il échappe sans aucun doute à l'entendement humain. La peur cosmique est donc également l'horreur de l'inconnu, la terreur de l'incertitude. Toutes les religions ont prétendu fonder leur autorité en promettant de supprimer ou au moins atténuer cette vulnérabilité et cette incertitude. Dans une société moderne moyenne, c'est la soumission des activités de l'existence aux forces du marché qui génèrent de manière massive cette vulnérabilité et cette insécurité. Quand les pouvoirs politiques exigent de ce sujet la discipline et le respect des lois, il peut fonder sa légitimité sur la promesse promesse de réduire l'incertitude et la vulnérabilité créées par le libre jeu des forces du marché. Une telle légitimation a trouvé son expression ultime dans l'autodéfinition de la forme moderne de gouvernement connue sous le nom des États-providence. Cette formule de pouvoir politique paraît de moins en moins convaincante à mesure que les dispositions de protection sociale sont progressivement démantelées et supprimées, alors même que les restrictions imposées au libre jeu des intérêts du marché disparaissent l'une après l'autre. Les fonctions protectrices de l'État se limitent à une petite minorité de gens inemployables, quoique cette minorité ne soit plus à l'abri qu'à l'inutilité des pauvres en tant que consommateurs et leur incapacité à participer aux activités du marché tend de plus en plus à être criminalisés. La vulnérabilité et l'incertitude des du marché sont à présent redéfinies comme des affaires d'ordre privé qui doivent être traitées et de manière individuelle en utilisant des ressources propres. Ainsi que l'a dit sociologue allemand Ulrich Beck, les individus sont censés à présent chercher des solutions personnelles à des contradictions systémiques. Ces nouvelles tendances sapent les fondements sur lesquels reposaient les pouvoirs de l'État moderne. L'accentuation largement constatée de l'apathie politique, la disparition des intérêts et des engagements politiques, la chute massive de la participation de la population à la politique institutionnelle sont autant d'illustrations de cela. L'État contemporain doit donc rechercher, et c'est ce qu'il fait, un autre type de peur officielle qu'elle puisse prétendre atténuer et résoudre, une espèce non économique de vulnérabilité et d'incertitude. Il semble aujourd'hui que pour les gouvernements des États-Unis, mais de plus en plus également pour les plusieurs gouvernements européens, cette alternative prend la forme de la question de la sécurité individuelle, menaces et craintes concernant les corps, les biens et les habitats qui peuvent provenir des activités criminelles ou des comportements antisociaux de la sous-classe à laquelle se sont récemment joints les terroristes du monde entier. Contrairement aux menaces générées par le marché à l'encontre des modes de subsistance et des positions sociales, les atteintes possibles à la sécurité individuelle doivent être exagérées, présentées sous les jours les plus sombres, de sorte que leur absence apparaisse comme un événement extraordinaire, le résultat des compétences de la vigilance, de l'attention et de la bonne volonté exceptionnelle des organes de l'État. C'est à cette tâche que se sont consacrés pour l'essentiel les services sécuritaires américains au cours de ces derniers mois. Avertis les Américains des atteintes imminentes à leur sécurité, les placer en état d'alerte permanent et accroître ainsi la tension. Les pouvoirs amaigris de l'État a besoin d'une nouvelle version de sa raison d'être pour compenser la perte de perspective de protection sociale. Elle est actuellement légitimée plutôt par la vulnérabilité et la sécurité individuelle que par la précarité et la protection sociale. Loin d'être le résultat non voulu, non anticipé et regrettable d'évolution échappant à tout contrôle et à toute prévision, il se pourrait fort bien que la vulnérabilité mutuellement assurée ou la précarité, comme dit, comme l'a voulu Pierre Bourdieu, soit une nouvelle formule de domination. Ainsi, il se pourrait que les pouvoirs globaux poursuivent résolument une politique consistant à répandre de façon manifeste cette vision sinistre et catastrophique et en plus mène des politiques susceptibles de matérialiser ces visions.
I'm surprised from hearing you that you still go on with the subject power. I mean, since Hegel said that the absolute was to be conceived not as a substance but as a subject, I mean, politics has always been referred to subject, to the absolute subject. And you still go on with this myth. And I'm very much surprised of hearing you opposing politics and power, because this term of power is always used by the old left, let us say, as if it was a phantom, you know, this the power. In Algeria, for example, they speak of the power, and they are much entitled of speaking of the power because there is an awful feudal, I mean, medieval caste in Algeria, but it's not in the modern world, you know. So that was my question about this term, this opposition of power and politics, which doesn't seem pertinent to me.
Donc je suis surprise de vous entendre parler et de vous entendre continuer à opposer le pouvoir et la politique. Une politique a toujours été référée comme le sujet absolu, mais vous continuez à l'opposer à la politique. Le pouvoir a été, notamment cette vision a été abandonnée par la gauche. Je prendrai l'exemple de l'Algérie où l'on parle là-bas de... Pardon, j'ai été... interrompu à ce moment-là par le micro.
Reprenez le micro.
J'ai dit la vieille gauche continue toujours à parler en termes de pouvoir, oui, comme si le pouvoir était un sujet. Alors, j'en profite pour dire que Deleuze a fait avancer considérablement la question il y a longtemps en disant que le capitalisme était un pouvoir sans sujet, aveugle, qui ne pensait pas.
Je suis vieux, je suis en gauche. For I think that you refer to me, but it is my turn to be amazed, really, that power emigrated to Nigeria and nothing is left here. I think we are saturated with problems of power in our very modern, super modern, supra modern, post modern, late modern, however you call them, societies. I have full respect for Hegel, but in my view, sociological point of view, anyway, power is neither subject nor substance. Power is relationship, relationships of inequality, of the ability for one side to do things which other side doesn't like and wouldn't like to be done. And in this respect, development, which you called mondialisation so often, and which consists simply in tightening the mutual interdependency of all parts of the planet. Now, this process can be described in full in the continuous redistribution of these power positions in the creation of new sort of a global hierarchy, which is very, very considerably changing now. It's a long story. If the topic of my lecture was different, I would be able to tell you quite a lot about it. Unfortunately, there's no time to discuss it here. Nevertheless, three tendencies of which I spoke and three consequences of these tendencies, reshaping the human condition in contemporary society, the extraordinary degree of flexibility, precarity, uncertainty, insecurity, the overwhelming feeling of lack of safety. All these most prominent aspects of contemporary life could be traced back to the new liquidity, fluidity of power relationships in the world, which I tried to grasp very briefly by the metaphor of frontier land, the territory in which everything can happen, but nothing can be done with any degree of solidity and certainty.
J'espère que les anglophones en ont. Non, ça va. Je pense qu'avec ça, ça va. Oui, il a parlé vite. Alors, je pense que nous sommes isolés. Il a cité plusieurs fois le terme moderne, supermoderne, postmoderne, pour indiquer que, bien qu'il soit plein de respect pour Hegel, le pouvoir n'est plus le sujet absolu, le pouvoir est synonyme d'isolation. Le pouvoir, c'est l'inégalité et l'incapacité pour certains, et de son point de vue, c'est ce qu'il appelle le développement, conduit à la mondialisation, et ça consiste à restreindre la dépendance mutuelle entre les différentes parties de la planète. Il entend par là il entend décrire la redistribution du pouvoir et qui a considérablement changé. C'est une très longue histoire et il pourrait vous en parler pendant longtemps, mais il voudrait simplement se résumer aux trois tendances qu'il a exposées. Et ces trois tendances, pour lui, ont trois conséquences qui reformatent la condition humaine. C'est l'extraordinaire flexibilité, précarité, insécurité, qui sont des aspects qui peuvent être opposés à à l'ancienne fluidité entre la relation entre les pouvoirs. Très brièvement, c'est ce qu'il a voulu expliquer en parlant des frontières qui disparaissent des territoires, mais malheureusement, de son point de vue, rien ne peut être fait. Je suis navrée, j'espère que j'ai réussi à résumer de façon très concise ce qu'il a dit. I would like to ask you just to speak shortly. I should prefer to translate in between and not all the explanation. Right. Okay, right. Thank you.
Okay, okay.
Yeah, nous allons prendre une...
Sorry.
Nous allons prendre une deuxième question. Madame, là. Poser une question brièvement. Enfin.
Oui, je ne sais pas si je vais arriver à l'expliquer de manière concise. En fait, j'ai le sentiment, mais je voudrais avoir votre réaction là-dessus, que une des raisons qui font que notre monde est plein et que nous sommes dans l'insécurité, c'est que le politique n'aborde pas la question de la propriété, et que c'est cette propriété qui est à l'origine du pouvoir à l'heure actuelle. Les cercles de pouvoir sont ceux qui accaparent la propriété de notre monde et qui nous en dépossèdent en tant qu'humanité. Est-ce que vous pourriez réagir sur ce sentiment ?
How much I can say in one go? You stop me,
okay, all right? Fine.
I think it's one of the most serious problems in analyzing whatever we do, whatever aspect we take under consideration in the direction of change in the contemporary world, the central position of the issues of insecurity. Now, insecurity, ladies and gentlemen, is a very complex concept.
Un des problèmes les plus sérieux que nous puissions analyser, quels que soient les faits et quels que soient les aspects que nous prenions à propos du monde contemporain, est certainement l'insécurité. L'insécurité est un sujet extrêmement complexe.
Yep. 70 odd years ago, Sigmund Freud wrote a book, Das Unbehagen in der Kultur, and in that he said that the troubles of our civilization consist mostly in switching the balance. It's a trade-off, an exchange. We got, he said, 70 years ago, mind you, quite a long time ago, he said, we got quite a lot of security from civilized order in exchange of quite a lot of individual freedom. And hence, all the psychological troubles which haunt contemporary men and women come from insufficiency of the freedom value. Right?
Okay. Il y a 70 ans, Freud a écrit dans un de ses ouvrages que le grand problème de notre civilisation consistait à un échange, et je vous rappelle que c'était il y a 70 ans, il considérait que l'un des problèmes de l'ordre, un des problèmes psychologiques, notamment entre les hommes et les femmes, venait de cette insuffisance de la valeur de la liberté.
I think that if Sigmund Freud was sitting here at the table, he would probably reverse the order. He would say that civilization is still a trade-off, but what has happened is that we have surrendered quite a lot of our security in exchange for virtually unlimited freedom of individual choice.
Si Sigmund Freud était aujourd'hui avec nous à cette table, il aurait renversé ses propos et il aurait considéré que la civilisation est toujours un échange. Mais nous avons aujourd'hui abandonné beaucoup à la sécurité pour une liberté virtuelle.
But here comes the crux, ladies and gentlemen, because Sigmund Freud wrote in German, and he used the word Unsicherheit, Unsicherheit. Now, in order to translate Unsicherheit into English, you need three words, not one. One is safety, another is certainty, and the third is security. Three different words. Certainty is about your feeling that you are able to predict the consequences of your action. Certainty, acting with certainty, knowing what the consequences will be. Security is the question of being confident that your position is stable, that you know what rules are attached and what possibilities are attached to this position, and safety, the third one. The safety is about integrity of your body, your possession, the street which surrounds you, the neighborhood, and so on.
Le problème, c'est que Freud a écrit en allemand, il a utilisé un mot que monsieur vous a dit en allemand et dont il n'a pas trouvé l'équivalent en anglais parce qu'il estime qu'il y a trois mots qui sont sécurité, certainité et... Could you repeat again the third words in English?
Certainty, security and safety. Safety.
Certainité, ça n'existe pas en français.
French is
être
also...
certain... Bon, je ne vais pas vous donner les mots, je vais vous dire les explications qu'il a données. La certainité entre, est la capacité de prévoir les conséquences. La sécurité, c'est d'être confiant en une opposition stable, en des règles qui sont tenues. Et la safety, c'est-à-dire la sécurité personnelle, c'est la sécurité d'avoir l'intégralité du corps, de la propriété, du voisinage, des biens matériels.
Now, all three conditions are very unpleasant, and I don't wish anybody to suffer them. Uncertainty is unpleasant, insecurity is unpleasant, lack of safety is unpleasant. But they are very closely connected, as this one word in German exemplifies very well. They are connected in the sense that while they all, each one of them, produces a lot of psychological tension, negative emotions, fear, anxiety, and so on, this fear and anxiety and tension can be easily shifted from one source to another. So it may be generated by uncertainty, but you could interpret it as generated from other aspect of Unsicherheit, for example, from personal safety.
Oui, ces trois mots sont extrêmement déplaisants à vivre et ils sont très connectés à ce mot allemand qui donc produisent des tensions psychiques, de l'anxiété, de l'insécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois mots glisser, on peut passer de l'un à l'autre.
Changer en place.
On peut les changer et en fin de compte, l'un et l'autre interprètent. Et le mot sécurité peut passer pour safety, pour sécurité personnelle ou pour certainité qui n'existe pas en français, par exemple.
So the problem is that the anxieties and fears and tensions in contemporary society are generated mostly by the there's insufficiency of certainty and there's insufficiency of security. Social positions are not secure anymore. Long-term calculation of the consequences of human action is virtually impossible because the rules of the game are changing in the course of the game and so on and so on. So there's a lot of room for tension and apprehension and fear and sleepless nights and so on. But l'État-nation, the only political institution sovereign to act, which has been invented during the course of the modern history, is unable to do much about the sources of insecurity and uncertainty, because the sources lie beyond the reach of the nation state power. They are global. Power today is global. Politics remains local as it used to be a long time ago. So there, little can be done. Where, in which field, something can be done and seen to be done? Well, in the field of safety.
Alors, ces peurs, ces tensions, cette anxiété viennent en fait du fait qu'on ne peut pas oser trouver des solutions suffisantes dans le cadre de la sécurité. Les règles à long terme, la possibilité d'anticiper les peurs, les tensions, on ne peut le faire. Mais par contre, l'État-nation, lui, qui est d'une vision moderne, qui est la seule institution politique qui a la possibilité et qui est capable d'envisager des solutions dans le domaine de l'insécurité. car elles sont globales. Le pouvoir est global alors que la politique est locale, comme c'était le cas dans les années passées. Et que peut-on faire ? On ne peut rien faire d'autre sauf au niveau de la sécurité.
So that's what I try to explain here, rightly or wrongly, namely that what is happening today, among other things, is a change, very profound change in the nature of social domination, the way in which domination is legitimized and the way in which it, the discipline which is required by the by maintenance of the relationship of domination is derived from society. The emphasis shifted from the area of security and certainty in social relations, in national politics, in the programming of political action and so on, from there to the issues of personal safety. And it acquires, therefore, tremendous importance in our daily life, the issues of personal safety. As I try to suggest to you, it is normally exaggerated to underline the importance of the action of the governmental institutions in the field of securing at least one part of stability and solidity of human existence.
What is your last word? Stability
and? Stability and solidity and self-assurance, self-confidence of human condition.
Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce qui arrive aujourd'hui sont des profonds changements dans les relations dans la société, notamment en ce qui concerne la discipline. Il est très exagéré de passer de la sécurité à la certitude dans le domaine social, politique. Il est très difficile de faire une programmation politique. Ceci nous amène à la question de la sécurité personnelle qui est tout à fait nécessaire dans la vie quotidienne. Et il est très exagéré de souligner et de faire ressortir la possibilité pour l'institution politique d'intervenir dans ce domaine de la sécurité, de la stabilité, de la solidité.
The trouble is, that's the end of my answer, the trouble is that however spectacular actions in the field of increasing personal safety, being tough on crime, creating more prisons, hiring more policemen, creating camps for the foreign element, asylum seekers, sans-papiers, and so on, however spectacular they all are, they don't... they don't have any effect on the other sources of anxiety, namely uncertainty and insecurity. They don't diminish. They continue to be there, creating more and more tension, more and more apprehension. Therefore, what I suggest is that there's a constant demand for more and more investment of political efforts and also public emotions in the issue of personal safety.
Le problème dans la sécurité des personnes, c'est que l'on crée plus de police, on crée plus de camps, on crée des... Enfin, il y a par exemple le problème des sans-papiers, mais en fin de compte, toute cette surenchère de sécurité, d'action sécuritaire, n'a aucun effet sur les autres sources des autres sources de l'insécurité. Cette insécurité continue, il y a toujours autant de tensions, autant d'anxiété. Et en fait, on peut constater qu'il y a une demande de plus en plus d'investissements et d'efforts politiques dans cette évolution publique de l'insécurité, de la question de la sécurité.
Une dernière question, madame, qu'elle soit courte. Allez-y.
Plus que courte. Je voudrais un petit peu des... Je les remercie beaucoup, je trouve extrêmement intéressante, mais ma question est un regard un peu positif. On parle beaucoup maintenant de gouvernance mondiale. La gouvernance, si la politique a des chances seulement dans les locales, qu'est-ce que, comment on, tout cet investissement, tout cet effort qu'on fait dans le monde pour sortir quelque chose dans la gouvernance mondiale, comment vous la voyez ?
Oh, well, well. The Americans would say $64,000 questions, really. It's the probably issue with which most of you here, people so much younger than I am, will probably have to devote most of their lives to resolve. The modernization, as I tried to explain before, in my view, is so far mostly a negative phenomenon, negative. And that's why my report was mostly negative and contained little positive elements. Negative in the sense that what has been already done in the on the world scale is the creation of the worldwide configuration in which everything which happens in one place can have potentially great effects on anything, on conditions of life, on the chances, of the prospects, and so on, in any other part of the globe. So we are all dependent on each other. You all know this famous metaphor of the butterfly, which clips its wings somewhere in South America, and it causes tornado in Texas. So that's our condition, negative connections.
Oui, votre question est une question à $64,000. Je pense que les plus jeunes d'entre nous ce soir passent leur temps à tenter de résoudre cette question de la modernisation. Je pense qu'elle a un effet négatif et c'est pourquoi dans mon intervention, mon texte était plus négatif que positif. Pourquoi est-elle négative ? Parce que tout ce qui a été fait à l'échelle mondiale, en fin de compte, c'est une configuration mondiale, de dimension mondiale. Et par exemple, tout ce qui peut avoir tous les effets sur les conditions de la vie, ce qui se passe dans un endroit du monde, a des effets, de quel qu'il soit, partout ailleurs dans le monde. C'est un petit peu comme le papillon qui est dans le nord des États-Unis et qui se retrouve dans une tornade au Texas. Je pense que la mondialisation est négative.
But it is a one-sided process, namely one part of the social system emigrated, so to speak, away from the unit in which all aspects of social system used to coordinate somehow. Military aspect, cultural aspect, economic aspects, political aspects, and so on. They were coordinated more or less successfully within the framework of the nation state. One part of the system, two parts of the system, we can quarrel how many of them, but certainly economic, certainly military might have emigrated beyond the reach of the nation state. Good deal of politics, which was considered to be the function and the task of the nation state, trickled down to the level of individual life politics. So very little is left in the sight of the previous integration of all aspects of the system. The most important thing, however, is that means of political control, and particularly the means of democratic control, did not follow the economy, the finances, the capital, the terms of trade, the terms of employment into the global space.
C'est un processus social qui a continué et qui a fait une unité dans tous les aspects. Par exemple, il y a une coordination militaire, culturelle, politique. Cette coordination a eu plus ou moins de succès. une ou deux parties du système a pu être positive. La question économique, militaire, est passée bien au-delà du niveau de l'État. Tous les aspects du système, tous les moyens de contrôle démocratique, le problème c'est que les moyens de contrôle démocratique n'ont pas suivi les questions économiques, financières, les questions du marché.
It already happened once in history. If you read Max Weber, one of the founders of modern sociology, he said that the modernity started from the separation of business from household. Why household? Because at that time, pre-modern time, household was the only place in which these all aspects of system were integrated, where the control over human obligations and rights was real and effective and conducted daily. Now, if business emancipated itself from household, it acquired precisely this frontier land, this no man's land, this land without public order and without law, where no rules existed, no effective institutions to control it, and so on. And then it took more than 100 years of long, long struggle for the newly emerged modern state to establish its power, its control, and later on also democratic control, controlled by the due political process of the activity of previously emancipated business. It took 100, 150 years to do so. We are exactly at the same position, only on a global scale this time. Business has already emancipated itself from any extant institutions of effective political democratic control. We don't have global judiciary, we don't have global code of law, we don't have any global representative institutions which can actually translate the popular will into something like the rules of conduct, rule of behavior of the powers that be. So this is the issue which is lying wide open at the moment.
Ceci a déjà eu lieu il y a 150 ans. La modernité a commencé avec la séparation du monde des affaires et notamment dans les ménages, puisque tous les aspects du marché étaient intégrés, ils étaient réels, ils étaient effectifs. Le pouvoir moderne s'est établi, le contrôle démocratique de l'activité est né il y a à peu près 160 ans, est apparu de façon globalement positive. Si le monde des affaires, lui, s'est émancipé, par contre, il n'y a aucune institution de contrôle politique. Nous n'avons pas d'institution judiciaire globale. Nous n'avons aucune institution qui puisse traduire la volonté populaire. Et je vous le dis, c'est ça la question qui est actuellement largement ouverte.
To make things even more complex, we don't have any link really, in spite of what we pretend. We don't have an inkling. What form this new reintegration of the human condition, of the human system which regulates this condition, what form it will take. The nation state, which I told you about a moment ago, was not a local government only bigger. It was not a parish only bigger. It was not a craftsman guild only bigger. It was not municipality only bigger. It was totally different kind of organization, of the structuring of political power, unknown before, unprecedented. And most of the notions which to us, all of us here, seem natural, understandable, all notions which we use when we discuss political matters in France or in Germany or in Britain or in Poland, would be completely incomprehensible for people living in 18th century, starting even with the concept of representative democracy, of general elections, of general right to vote and things like that. That would be completely incomprehensible. And I would suggest to you, ladies and gentlemen, that in the same way, the solution of the issue on the global scale cannot be the well-known to us familiar institutions of the nation state only blown bigger. You know, this balloon cannot be blown bigger. All these institutions are adjusted. They have been created historically to the measure of the nation state phenomenon, and they are not fit to be extended to the global size.
Pour rendre les choses encore plus complexes, il n'y a pas de possibilité de réintégrer, de réintégration dans la condition humaine. Tous les États-nations n'étaient pas un gouvernement plus grand ou une municipalité plus grande, c'était simplement une autre structure. Et les notions politiques que l'on peut avoir en France, en Allemagne, en Pologne ou en Grande-Bretagne auraient été incompréhensibles pour les gens qui habitaient, enfin pour les gens d'il y a dans le passé. Des élections générales, par exemple, seraient incompréhensibles. Et je suggère que les solutions à l'échelle globale ne soient pas nécessairement des solutions familières. Elles ne peuvent pas être plus grandes. Elles doivent être à la mesure de la nation. Elles ne peuvent pas avoir une autre échelle. Elles ne peuvent pas être agrandies comme un ballon.
The problem is, ladies and gentlemen, that it's not just that we don't have superhuman powers enabling us to see the future. But the question is that we don't even have the concepts in which we could present these future global institutions, political institutions, in which we could actually describe them, in which we could discuss their virtues and their vices. The concepts are such concepts, I'm quite sure, will be born, will be created in the course of political action, but they are not known in advance. We can't imagine, for example, just to give one only example, the democratic control organ of the global society, if there ever will be something like that, as a national parliament only having more seats. It won't work. It won't work. And Johan Galtung, great Norwegian political scientist, I was witness to it, had the same kind of question given to him in Venice, and his answer was, do you want a democratic control? Do you want a democratic parliament of the world? Okay, they will be sitting, he said, five Norwegians, 40 Italians, perhaps 80 Germans, 1,000 Hindus, and 2,000 Chinese. And he stopped at this moment and looked around the room and said, I don't see much enthusiasm for global democracy. Now that's how far as we can go.
Le problème, c'est que nous n'avons pas un concept, nous n'arrivons pas à imaginer des institutions politiques globales, nous n'arrivons pas à les décrire et à les discuter. Le concept, en fait, sera créé au cours de l'action politique, mais nous ne pouvons pas à l'avance le déterminer. Par exemple, il n'y a pas d'organe de contrôle démocratique, comme par exemple un Parlement national, ça ne marcherait pas. La question a été posée par... I didn't catch the name of the person you said before. The example you gave about this.
Johan Galtung.
Okay. Johan Galtung. De même, il a commencé à aborder cette question parce qu'elle lui avait été posée. Il a dit, OK, on va imaginer un Parlement. Alors, nous serions réunis, il y aurait 40 Italiens, il y aurait 80 Allemands, il y aurait 1000 Hindous, 2000 Chinois. Et puis, il s'est arrêté et il a dit, ça n'a pas l'air d'entraîner votre enthousiasme. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à concevoir un contrôle global.
Zygmunt Bauman, merci beaucoup. Un grand merci également pour Madame Florence Drory qui a assuré la traduction, que vous pouvez applaudir aussi.